France Inter. Le Crédit Mutuel donne le la à la musique sur France Inter.
21h04 sur France Inter. Tout de suite, Very Good Trip avec Mishka Assayas. Bonsoir Mishka.
Merci beaucoup Valentine Lettès. Vous serez bien sûr de retour d'ici une heure pour un nouveau point sur l'information. Ce soir, ce sera une autre façon de célébrer la singularité de Kurt Cobain en faisant un tour dans sa discothèque inattendue. Give me danger, little stranger, offre-moi du danger, petite inconnue, un des classiques de Iggy Pop avec son groupe Les Stooges en 1973, une chanson qu'on a pu découvrir dans un album qui s'appelle Raw Power, Puissance Crue. Il se trouve que Raw Power est également le tout premier titre que l'on trouve en tête d'une liste 50 albums, une liste manuscrite comme calligraphiée, dressée par Kurt Cobain dans l'un de ses carnets intimes, la liste de ses albums préférés, dans laquelle figurent en tout cas ceux qui l'ont aidé à trouver son identité de musicien. Une liste qu'on a pu découvrir lorsqu'un éditeur a publié une sélection de ses carnets intimes s'imprime d'abord en fac-similé en 2002, 8 ans après son suicide. L'apparition, c'était sous le nom de Journals, journaux. On y trouvait des notes, des esquisses de chansons, des pensées et de la correspondance aussi et d'excellents dessins. Alors je reviens donc à cet album des Stooges que Kurt Cobain a choisi de mettre vraiment en avant. Iggy Pop, il faut le rappeler, a été la première rockstar délibérément androgyne. Et c'est bien connu, l'un des modèles du personnage de Ziggy Stardust pour David Bowie. Son grand ami aussi, naturellement, par la suite. En tout cas, il est très révélateur que les noms des Stooges et de l'album Raw Power soient les premiers à figurer donc dans cette liste dressée par Kurt Cobain. Sur la pochette de cet album, paru en 73, Iggy pose torse nu, tel un pharaon égyptien, et il est maquillé, hein, les lèvres peintes et les yeux faits, sans le moindre poil sur son torse, fier d'exhiber une androgynie provocante. Pour Kurt Cobain, qui avait grandi dans un petit monde rural, où le modèle masculin était, mettons, celui du bûcheron, c'était une tradition dans la région, cette image de Iggy Pop, aussi bien que cette musique, a ouvert une porte de sortie, une échappatoire. Il existait, grâce à la musique, une façon d'échapper à cette espèce de virilité sommaire à laquelle son milieu, hein, son biotope, comme on dirait aujourd'hui, l'assignait. Cette liste dressée par Kurt Cobain est une des plus étranges qui soit, déjà parce que cohabitent quelques noms ultra connus, dont le moindre n'est pas celui des Beatles, avec certains autres noms, alors totalement obscurs, comme Void /Faith, ou encore Rites of Spring, deux groupes dont, je vous l'avoue, je n'avais même jamais entendu parler. Alors la liste de Cobain est aux antipodes de celle qui prétendent réunir, entre guillemets, hein, les albums qui ont fait l'histoire du rock, ou ceux qu'il faut avoir écouté pour ne pas mourir idiot, ou je ne sais quoi. Il s'en fout complètement de ces histoires. C'est une liste qui n'a de sens que pour lui. Elle raconte en filigrane l'évolution d'un gamin parti du hard rock, de Led Zeppelin, de Black Sabbath ou de AC/DC, qui ne mentionne même pas d'ailleurs, alors que ces groupes ont bien sûr énormément compté pour lui. Oui, comment il est parti d'un rock d'apparence très virile, sûr de lui, sûr de sa puissance écrasante, pour explorer son contraire. Un punk rock mettant en scène une sorte de chaos et de confusion jusqu'à, vous en entendrez des exemples, ça allait jusqu'à des musiques pour lui très révélatrices qui exprimaient de façon exacerbée la fragilité et l'émotivité des musiques créées notamment par des femmes. Et puis Cobain est allé plus loin encore dans l'exploration de sa personnalité intime, cachée grâce à la musique. Il a privilégié parfois des sons maladroits, discordants, propres à certains musiciens restés en enfance. On note dans sa liste un des albums les plus absurdes jamais enregistrés, il s'appelle Philosophy of the World. Il est signé par les Shags, avec 2 G, un trio de 3 filles couvées par leur père en adoration, qui avait publié donc assez frais en 69 un album aberrant. Ils ne savaient ni jouer, ni chanter, et pourtant elles avaient enregistré cet album soit hilarant, soit inaudible. Enfin, vous êtes partagé quand vous l'écoutez entre la souffrance, proche de la torture, et la fascination. Dans la liste de Cobain est mentionné, dans les premiers titres, un album signé en 76 par un groupe bien connu de hard rock américain, un groupe de Boston qui s'appelle toujours Aerosmith, un album intitulé Rocks, et c'est intéressant d'écouter cette chanson Back in the Saddle en essayant d'imaginer comment Kurt Cobain a pu y entendre son propre cri naissant. We'll be right back. Entre punk rock et soul qui remonte à 77, celui du groupe australien The Saints dans Know Your Product, une chanson inscrite dans la liste des 50 albums préférés de Kurt Cobain, que j'explore pour vous dans le Very Good Trip de ce soir sur France Inter, la troisième émission que je lui consacre après celle d'hier et d'avant-hier, 30 ans après sa disparition. Alors les Saints représentent un choix inattendu de la part de Cobain, puisqu'on trouve en fait dans sa liste des choses bien plus connues, comme l'unique album publié par les Sex Pistols de leur vivant, un Nevermind the Bollocks, bon c'est un choix évident. Il y a cependant aussi Combat Rock, qui est un album que The Clash a publié en 1982 et qui n'a laissé aucun souvenir, hormis le tube chanté par Mick Jones, hein, que tout le monde connaît, Should I Stay or Should I Go, dans le style des Rolling Stones. Sans doute est-ce le seul album de The Clash que Cobain a vraiment eu la chance de connaître quand il a découvert la musique. Alors un mot sur ce groupe punk australien, The Saints, c'était un excellent groupe qui naît de la ville de Brisbane, un groupe qui était né au milieu des années 70 et dont le style était assez proche des Stooges de Iggy Pop de la période justement de Raw Power qu'on a entendu, soit un punk rock lié d'une certaine façon au cri originel du blues. Alors juste un mot sur la façon dont il a découvert la musique en général. Comme beaucoup le savent sans doute, Kurt Cobain n'était pas un urbain, il avait passé une partie de son enfance dans un village qui s'appelait Montesano, qui est situé dans le nord de l'état de Washington, c'est-à-dire l'extrême nord-ouest des États-Unis. Et son père, divorcé de sa mère, faudrait peut-être préciser, carrément chassé par elle, a travaillé un temps dans la ville de Montesano comme mécano dans une station-service. La ville portuaire de Aberdeen, un peu plus grande mais à peine, située à l'ouest, à une dizaine de kilomètres de là, était celle où habitait sa mère, une ville éloignée d'un centre plus important comme Olympia, où Cobain allait résider plus tard, je vous en reparlerai, sans parler de Seattle, qui était très très loin, vers le nord de l'état de Washington. Alors Cobain a donc passé une enfance très isolée. Son père ne fréquentait pas de magasin de disques, était inexistant sur place. Il achetait plutôt des disques par correspondance. Et de cette façon que le petit Kurt a découvert Led Zeppelin, Aerosmith, qu'on a entendu tout à l'heure, et aussi Black Sabbath, qui est vraiment une des sources de ce qu'on a appelé d'abord le heavy metal, puis évidemment simplement le metal. Il y a aussi un oncle paternel chez qui le jeune Kurt, qui était ballotté entre divers foyers, personne n'avait vraiment envie de s'occuper de lui, avait vécu quelque temps. C'était un fumeur de pétards qui avait une discothèque assez bien fournie, grâce à laquelle Cobain a découvert notamment les Beatles, dont un des premiers albums, Meet the Beatles, le fascinait. D'ailleurs, celui-là et pas un autre qu'il a inscrit dans sa liste dont je vous parlais. Et puis aussi AC/DC. C'est comme ça qu'il a connu dans la discothèque de son oncle ce grand groupe de hard rock australien. Jusqu'à ce jour pour Kurt Cobain, ce jour de 1983 où tout a changé pour lui. Autour de ses 15 ans, il a découvert lors d'un festival un groupe local qui s'appelait les Melvins, emmené par un certain Buzzo, chanteur et guitariste du groupe. Buzzo qui venait d'Aberdeen, donc la ville où vivait sa mère. Et Buzzo est devenu le grand copain de Cobain et même son modèle, parce que longtemps avant de créer Nirvana, Cobain avait une ambition, même une obsession, intégrer les Melvins, qu'il a longtemps suivi en répétition et en tournée, dans le vain espoir d'intégrer un jour le groupe comme guitariste. Faut dire que ce Buzzo, qui avait démarré dans un style hardcore, encore très punk, avait vu loin, puisque comme il le déclarerait dans le courant des années 90, lorsque nous, les Melvins, avons commencé, nous voulions être un groupe qui soit à la fois extrêmement rapide, mais aussi le plus lent possible. C'est plutôt une bonne définition de ce qu'on a appelé le courant grunge, qu'on peut définir comme une sorte d'inflexion du hardcore vers les tempos lents, comme ensablé du métal, avec bien sûr l'influence à la source du hard rock. C'est comme ça en tout cas que Kurt Cobain a remonté le courant et découvert le punk rock des origines, notamment un trio qui fut créé en 1977 par un des rares punks de la ville de Portland, dans l'état avoisinant vers le sud de l'Oregon. Le guitariste et chanteur Greg Sage a formé donc un Portland, un groupe du nom des Wipers, les essuie-glaces, un groupe punk dont les chansons étaient traversées par une sorte de rage désespérée qui a profondément marqué Cobain. Ce titre des Wipers, qui s'appelle Return of the Rat, figure dans un album paru en 1980 qui s'appelle Is This Real. Il est inscrit dans la liste des 50 albums préférés de Kurt Cobain, tout comme The Record du groupe Fear, un des pionniers du punk rock à Los Angeles, qu'on entendra tout de suite après.
No.
Sur France Inter.
Pack, un titre signé par le groupe punk californien Black Flag, c'est un album paru en 1981 intitulé Damaged, qui figure dans la fameuse liste dont je vous parlais, liste établie dans l'un de ses carnets par Kurt Cobain, réunissant les noms des 50 albums qui ont marqué ses débuts dans la musique, une liste tout à fait surprenante. Là, vous avez entendu la voix de Henry Rollins, le chanteur d'alors de Black Flag, un homme qui, avec le guitariste Greg Ginn, a jeté les bases de ce qu'on commençait à appeler le punk hardcore. Et d'ailleurs, dans le cas de Black Flag, il y avait des dissonances délibérées, proches d'une certaine atonalité, ce qu'on a pu entendre aussi bien plus développé chez les New-Yorkais de Sonic Youth. Sonic Youth qui avait un autre point de départ, qui était celui de l'avant-garde musicale new-yorkaise. Sonic Youth, immense influence sur Cobain et Nirvana. D'ailleurs, l'album du groupe Sonic Youth, Daydream Nation, sorti en 1988, figure dans cette liste dont je vous parle, le top 50 de Nirvana, comme l'écrit Cobain. Et d'ailleurs, cet album de Sonic Youth figure entre Dry, qui est le premier album de PJ Harvey, sorti en 92, et plus étonnant, Get the Knack, le premier du groupe de rock new-yorkais très pop, aux chansons très radiophoniques, The Knack, qui avait été un des grands succès tout public de l'année 1979. Adolescent, Cobain a rencontré un musicien qui évidemment allait devenir très important dans sa vie, c'est Krist Novoselic, fils d'émigrés croates, installé à Aberdeen. Alors lui, c'est en séjournant un temps dans son pays d'origine, qui était alors la Yougoslavie, qu'il avait découvert le punk rock. Alors, arrivé à Aberdeen, il jouait un peu de basse, et c'est Cobain qui a convaincu Novoselic de le rejoindre. Et le trio, qui s'appelait pas tout de suite Nirvana, était complété par un batteur oublié, un marginal, qui était alors employé par une enseigne de restauration rapide. Et ce groupe embryonnaire a répété donc sous différents noms, et début 1987, il s'est produit sur une radio de Olympia, une ville avoisinante, pas tellement éloignée, vers l'est, de Montesano et de Aberdeen. Une ville où se développait une communauté musicale très active, emmenée par un certain Calvin Johnson, cofondateur avec la chanteuse et batteuse Heather Lewis du groupe Beat Happening et fondateur d'une étiquette discographique qui a eu une grande importance dans le petit monde du rock alternatif qui s'appelait K Records. Certains parlent au sujet de Beat Happening, le groupe de Calvin Johnson, un Velvet Underground rudimentaire, oui, on peut dire ça comme ça. L'important en tout cas, c'est que ce Calvin Johnson, qui a fait ses débuts comme bénévole dans une radio estudiantine, a également créé un fanzine du nom de Sub Pop, qui allait bientôt se transformer en une compagnie discographique qui allait être le fer de lance du punk hardcore et qui allait publier le premier album de Nirvana, Bleach, en 1989. Tout de suite, Hangman, comme le bourreau, un titre extrait d'un album signé par Beat Happening en 1988, intitulé Jamboree et qui figure là encore dans le, entre guillemets, top 50 de Cobain.
Near the center of Spain, where a jealous brother pulled a cold-blooded cane. They had a dirty job that had to be done. When they asked for takers, there was only one. 'Cause I'm the hangman. Yeah, hangman. I'm the hangman. 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 Atone for my sins. Walk out to the yard, test the rope. When the dawn breaks, I start to work. 'Cause I'm the hangman.
Always wondering why I was into sports. Oh, Mom was always wondering why I was staying after school. I'm into sports, Mom, and also I'm in the locker room with the boys. I'm in the shower and I drop the soap every time. Homos, uh-huh, 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 homo. No one knows a homo like us. We love homos. Lesbians are cool and straights are fool. Lesbians rule their scene, but the homos are the coolest of the cool. Homos, uh-huh, 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 homos. They never knock at my front door. They never ring on the phone. They always come through the window, through the back door, through the throat. Homos, uh-huh, 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 homos.
Une curiosité que je remercie chaleureusement Kurt Cobain, là où il est, de m'avoir fait découvrir une chanson qui s'appelle Homos, homo, bah, comme homosexuel au pluriel, signée par un groupe qui s'appelait les Frogs, comme des grenouilles, et qui venait de Milwaukee, c'est la grande ville au nord de Chicago, au bord du lac Michigan. La chanson conclut un album intitulé It's Only Right and Natural, que les Frogs ont publié en 1989, et qui figure, c'est surprenant, mais enfin c'est le cas de tout ce que nous allons entendre ce soir dans le top 50, entre guillemets, de Kurt Cobain. Alors je sais pas si ça serait pas mis à l'index aujourd'hui, les mentalités ont beaucoup changé. C'est un certain Jimmy Flamion, chanteur et guitariste, qui a fondé avec son frère aîné Dennis ces Frogs qu'adorait Kurt Cobain. Alors je disais que oui, en 2024, peut-être que les Frogs ne passeraient peut-être pas auprès de certains, auprès de certaines. C'était en effet des hétérosexuels qui exploraient et mettaient en scène le point de vue des homosexuels dans leurs chansons pour justement déranger et interroger le point de vue confortable et faussement assuré des autres hétérosexuels, comme la chanson dit « Maman se demandait toujours pourquoi j'aimais rester au vestiaire avec les garçons et à la douche, je faisais toujours tomber la savonnette, les homos, personne ne les connaît comme nous », c'est ce que dit la chanson. Dans la chanson d'ailleurs de Nirvana qu'on a entendue hier, qui s'appelle « All Apologies », il y a justement un passage très révélateur où Cobain s'exclame « Everyone is gay », tout le monde est gay. Dans la ville de Olympia, je vous en parlais la semaine dernière à propos de Beth Ditto du groupe Gossip, eh bien Cobain a découvert un autre monde, une ville où l'on pouvait déjà vivre librement sa sexualité, quelle qu'elle soit, sans la peur du candidaton, sans être confronté à l'intolérance, à la haine, à la bêtise et à la violence. C'est à Olympia qu'il a découvert aussi des musiques voulues et faites par des femmes en toute indépendance, des femmes libres, affranchies de toute règle, de toute tradition, qui s'était lancée dans la musique une dizaine d'années auparavant de l'autre côté de l'Atlantique, au Royaume-Uni, dans le petit monde du punk et de l'après-punk londonien, notamment les Slits de la chanteuse Harry Up et de la guitariste Viv Albertine, qu'on ne cesse de redécouvrir plus de 40 ans après leur naissance, et aussi les Raincoats, un groupe 100% féminin qui fascinait tellement Cobain qu'il a insisté pour qu'elles se réunissent, elles étaient séparées, et assure en 1994 la première partie de certains concerts de l'ultime tournée européenne de Nirvana. Les Raincoats, qu'on écoute dans le fulgurant et tellement audacieux No Side to Fall In, ça remonte à l'année 1979, et ce sera ensuite Typical Girls des Slits, dont le premier album, Cut, figure parmi les préférés de Kurt Cobain.
My life, I don't mind.
Very Good Trip sur France Inter, Mishka Assayas.
Credit in the Straight World, vous êtes peut-être quelques-unes, quelques-uns à avoir découvert cette chanson en 1994 dans un album signé par Hole, le groupe de la chanteuse Courtney Love, mariée à Cobain au début de l'année 92, la reprise d'une chanson signée par un trio qui s'appelait Young Marble Giants, je vais vous en dire deux mots, et l'album de Courtney Love et de Hole s'appelait Live Through This, et puis il était sorti une semaine juste après qu'on eut appris la mort de Cobain, un album qui a connu un grand succès. Alors grâce à Calvin Johnson, dont je vous ai parlé, celui qui animait à Olympia un programme sur une radio étudiante et qui avait d'ailleurs donc une étiquette discographique K Records, et bien Kurt Cobain avait découvert toutes sortes de bizarreries, et cet album donc signé par les Young Marble Giants, un album unique hein, dans les deux sens du terme, à l'origine c'était de simples maquettes, le seul qu'a publié de toute son existence un trio sorti du Pays de Galles, Young Marble Giants, un album absolument hors du commun intitulé Colossal Youth, qui est un de ceux qui de toute ma vie m'a le plus marqué et dont la découverte autant que celle de Joy Division m'a déterminé à écrire sur la musique.
We'll be right back.
Touch Me, I'm Sick, un titre de 1988, le cri du chanteur et guitariste Mark Arm, cofondateur à Seattle du groupe Mudhoney. Mudhoney, un groupe qui a beaucoup, beaucoup marqué Kurt Cobain, ça s'entend, et qu'on peut considérer à la charnière du punk rock garage, du courant hardcore avec ses dissonances et dérapages bruitistes et grunge naissant. De tous les groupes de la mouvance grunge, Nirvana a bien sûr été le plus célèbre, mais le plus proche de ses racines garage reste Mudhoney, dont trois des membres fondateurs, le chanteur Mark Arm, le guitariste Steve Turner et le batteur Dan Peters, sont toujours unis plus de 35 ans après la naissance du groupe. Alors ce tour d'horizon rapide, hein, et on n'a qu'une heure, enfin même moins d'une heure, des musiques souvent inattendues qui ont aidé Kurt Cobain à devenir ce qu'il était, serait incomplet si je ne vous parlais pas de l'étonnant Daniel Johnston, un auteur de chansons, interprète, dessinateur aussi, disparu en 2019 et dont un album qui s'appelle Yip Jump Music figure dans ce fameux top 50 de Kurt Cobain. Qui était Daniel Johnston? Eh bien, c'était un homme qui avait été diagnostiqué schizophrène assez tardivement, à partir de la trentaine, qui était atteint de troubles bipolaires et qui a dû faire plusieurs séjours en hôpital psychiatrique. Mais c'était un musicien né, il avait ça dans le sang, même si c'était pour lui à la fois une épreuve et une nécessité de sortir quelque chose de ses entrailles. Il avait de nombreux admirateurs, notamment Jeff Tweedy, le chanteur et compositeur du groupe du Midwest américain Wilco, qui disait de lui « Daniel est arrivé à créer des chansons malgré sa maladie mentale et non à cause d'elle. Il a été honnête dans sa façon de décrire ce qu'il endurait, sans pour autant insister sur le sujet. » Ce qui est une assez bonne façon aussi de décrire l'approche de Kurt Cobain. Daniel Johnston avait découvert qu'à l'âge de 19 ans, il ne pourrait pas devenir les Beatles à lui tout seul. C'était vraiment difficile à admettre, mais il s'y est fait. Ça ne l'a pas arrêté, rien ne l'a arrêté, parce que composer des chansons, ça relevait pour lui de la nécessité intérieure. Et dans la cave de la maison de ses parents, le jeune Dan, qui était le benjamin d'une famille de 5 enfants, créait des chansons qu'il enregistrait sur une radiocassette bon marché. Dès la fin des années 70, il avait un peu moins de 20 ans, des chansons dont les sujets étaient inspirés des épisodes de sa vie quotidienne. Il y a une certaine qui s'appelait « J'ai failli me faire renverser par un camion ». Il y avait aussi ses obsessions, les Beatles ou bien Casper, le gentil fantôme auquel il s'identifiait, King Kong, enfin en général, toutes ses joies, toutes ses peines, exprimées dans un langage franc, naïf, très maladroit, sans filtre, comme celui des enfants. On comprend que ça ait parlé en profondeur à Kurt Cobain.
You have a sweetheart, sweetheart, you have a nice smile, baby, you drove me crazy, down lover's lane, it's close to pain, this love I have for you, I cannot tame my desire for you, and when we start to bet, don't forget I love you. Take my hand, we're walking. The moon and stars are singing in the sky. And everyone I know must be jealous, 'cause they don't have such a love as I. You are my sweetheart, sweetheart, you are my baby, baby, you drove me crazy, down lover's lane, I can't explain this love I have for you, I cannot tame my desire for you, and when we start to pet.
Et c'est avec la voix déchirée de Daniel Johnston que adorait Kurt Cobain que nous nous quittons pour ce soir. La chanson s'appelait Sweetheart. Avant que l'on se quitte, il me reste à vous signaler deux événements prochains associés à Kurt Cobain et à Nirvana. Le premier, ça se passera à Bourges, à l'occasion du printemps de Bourges. Il y aura un spectacle qui s'appelle Come As You Are, qui est avec Béatrice Dalle et Yuvdi. Ce sera le 26 avril. Il y aura également une exposition qui s'appelle Teen Spirit, organisée avec la discothèque de Radio France, qui se tiendra du 23 au 29 avril à la Maison de la Culture de Bourges et qui présentera plus de 150 pochettes d'albums. Tout de suite après les informations, vous retrouverez Laurent Goumard et son côté club. Ce soir, il recevra Thomas de Pourquerie et Arthur Teboul.